France Musique. Musicopolis. Paris. Le 4 juillet 1841 paraît un article dans la Revue et Gazette musicale de Paris dans la rubrique « Revue critique ». Signé du compositeur allemand Stefan Heller, il est titré tout simplement « Les nuits d'été, 6 mélodies pour mezzo-soprano ou ténor avec accompagnement de piano par Hector Berlioz ». Heller y affirme que dans ses nouvelles mélodies, offrande modeste mais pure, on retrouve sous une forme pleine d'originalité et de grâce, toutes les riches qualités de ses grandes œuvres instrumentales. Berlioz se révèle à chaque page, chaque mesure porte son cachet et reflète, pour ainsi dire, quelque chose de sa physionomie. L'article de Stefan Heller commence par remettre en place quelques idées. Si certains pensent que Berlioz fait de la musique avec la préméditation de dénaturer les éléments primitifs qui la constituent, eh bien, ils se trompent. Berlioz, selon Heller, ne travaille pas d'après un système. Ce n'est ni un démolisseur, ni un esclave aveugle des vieilles théories. Ce qui préside à ses œuvres, c'est l'inspiration. Il s'écoute penser et il peint ce qu'il sent. Mais je renvoie le lecteur à l'œuvre même, conclut Stefan Heller, car mes oreilles bourdonnent encore de ces sons, ou joyeux ou plaintifs, et je ne puis me décider à analyser par de froides paroles ce que la musique seule peut faire apprécier. Grâce à la date de l'article de la Revue et Gazette musicale, 4 juillet 1841, nous apprenons l'époque de publication des Nuits d'été de Berlioz, été 1841. Deux autres indices seulement nous permettent de situer l'œuvre dans le temps. La mention 23 mars 1840, en tête du manuscrit de la première mélodie du cycle, Villanelle, que nous venons d'entendre, et l'annonce de deux autres mélodies, Absence et Le spectre de la rose, en concert en novembre 1840. Où elles ne seront finalement pas chantées. C'est à peu près tout ce que l'on a comme élément pour placer ces mélodies dans le catalogue de Berlioz. Lui-même n'a rien écrit à leur propos, ni dans sa correspondance, ni dans ses articles de critique musicale, ni dans ses mémoires. Pour un compositeur aussi prompt à parler de ses œuvres qu'Hector Berlioz, cette absence pourrait à juste titre nous interroger. Pour pallier l'absence de renseignements sur la genèse des Nuits d'été de Berlioz, je vous propose un petit tour d'horizon. Où en était donc notre compositeur en 1840 et 41? C'est grâce à la Symphonie fantastique qu'il s'est fait connaître en 1830. Malheureusement, ce succès légèrement scandaleux n'a pas été tellement suivi des faits. À Paris, c'est à l'opéra, et là seulement, qu'un compositeur peut arriver à la grande célébrité. Mais Benvenuto Cellini, donné en 1838, n'a eu que 3 représentations et a sonné la disgrâce de Berlioz à l'Académie royale de musique. Heureusement, Hector a un peu plus de chance avec Harold en Italie et Roméo et Juliette. Mais ce sont des œuvres un peu spéciales qui trouvent alors difficilement leur place dans les salles de concert. Berlioz s'est fait entendre aussi dans 2 œuvres encore plus hors normes, 2 commandes d'État, le Requiem en 1837 en mémoire des soldats de la Révolution de juillet 1830 et la Symphonie funèbre et triomphale en 1840 pour le 10e anniversaire de la même Révolution. Ces œuvres dont je vous parle, composées par Berlioz entre 1830 et 1840, sont des œuvres de grande envergure, autant dans leur conception que dans leur durée ou le nombre d'interprètes nécessaires à leur exécution. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, le grandiose n'est pas la seule inclination de Berlioz. Il apprécie tout autant les pièces intimes. Et même, ce sont des pièces intimes qu'il a composées avant tout dès son adolescence. Ce nocturne à 2 voix est un arrangement par Berlioz d'une romance anonyme. Arrangement comme il en a réalisé énormément pour voix et guitare, son instrument, pendant sa jeunesse. La romance est alors un genre très prisé, simple et sentimental, et dont les partitions se vendent beaucoup en province, comme dans le Dauphiné où vit le jeune compositeur. On chante les romances dans les salons, accompagnées à la harpe, parfois à la guitare, et de plus en plus souvent au piano. Tous les compositeurs et les compositrices, puisque ce genre ne nécessitant pas de longues études de contrepoint leur est abordable, toutes et tous donc s'y adonnent. À 19 ans déjà, Berlioz en a composé, il les a envoyés chez un éditeur parisien et il a été publié. Jacques-Auguste Delaire, auteur en 1841 d'un petit opuscule sur l'histoire du genre, la romance est un petit poème rimé, divisé par couplets, dont le sujet est ordinairement le récit de désirs ou de tourments d'amour et que l'on chante sur un air fait exprès. telle est la romance proprement dite, mais on comprend aussi sous cette dénomination les chansons héroïques et les complaintes ou récits d'événements lamentables et souvent tragiques. De fait, la romance est un genre déjà ancien, pratiqué au XVIIIe siècle et au début du XIXe. À l'époque de Berlioz, il commence à se diversifier et notre Hector lui-même donne des noms variés à ses pièces. Parfois romance, mais aussi chansons élégiaques, chansons gothiques, ballades, rêveries. Après les textes assez sentimentaux qu'il a mis en musique dans sa jeunesse, une fois qu'il est monté à la capitale et qu'il fréquente les milieux artistiques parisiens, Berlioz va s'intéresser à Goethe, pour lequel il s'enflamme, et qui lui inspire 8 pièces réunies sous le titre de « 8 scènes de Faust », auquel il confère le numéro d'opus 1. Puis, il est pris par la poésie de Thomas Moore, traduit par son ami Thomas Gounet. En 1829, Berlioz réunit 9 poèmes de Thomas Moore qu'il a mis en musique et il les publie en un recueil qu'il intitule d'abord « Mélodies irlandaises », traduisant littéralement le titre anglais de « Irish Melodies ». C'est à partir de ce moment qu'on parle de « mélodie » pour désigner, je cite le Larousse, un poème chanté avec accompagnement dans la musique française. Berlioz ne sait pas encore qu'il a signé là l'invention de la mélodie française et il continue à appeler romance ou à ne pas appeler du tout plusieurs pièces que nous nommons aujourd'hui mélodie. Jusqu'au jour où il découvre le recueil de Théophile Gautier, La comédie de la mort, publié en 1838. Thank you. Dans le recueil de Gautier, La comédie de la mort, le poète a réuni environ 50 de sa production. Au centre, une immense épopée de 250 strophes et 1400 vers, introduite par un majestueux portail et suivie d'une cinquantaine de poèmes séparés. Berlioz les connaissait peut-être avant leur publication, puisqu'il fréquente les mêmes cercles littéraires et artistiques que leur auteur. Ils se voient dans les réunions amicales et ils sont aussi collègues comme journalistes, puisque la plus grande partie de leurs revenus à l'un comme à l'autre leur vient de leur collaboration à divers journaux. En plus, ils habitent tout près, dans le même arrondissement, le 9e. Berlioz choisit d'abord, dans le gros recueil, quatre poèmes qui l'inspirent particulièrement. Deux assez souriants, Villanelle et Barcarolle, dont il va changer le nom en L'île inconnue. Ce seront les deux mélodies extrêmes du cycle. Au centre, il place Le spectre de la rose et avant, Absence. Si la Villanelle, qui introduit les nuits d'été de Berlioz, est tout à fait gaie et légère, il n'en est pas de même pour les mélodies suivantes. Le spectre de la rose évoque la mort liée à l'amour. Absence déplore l'abandon de la bien-aimée. Les deux derniers poèmes choisis par Berlioz et qui soutiendront les mélodies intitulées « Sur les lagunes » et « Au cimetière » ne sont pas plus optimistes. Un amant dont l'amante est morte, condamné à errer sur les mers, un cimetière où la pâle colombe chante un air maladivement tendre et où une forme angélique passe dans un rayon tremblant en voile blanc.
Oh,
En l'absence de toute donnée autobiographique de la part de Berlioz à propos de ses nuits d'été, on ne peut qu'émettre des hypothèses sur ce qui l'a poussé à mettre en musique des textes aussi sombres. D'abord, on peut arguer que les plus désespérés sont les chants les plus beaux, et qu'en tant qu'artiste romantique, Berlioz est particulièrement inspiré par ses textes douloureux ou tragiques. On peut également se reporter à sa vie sentimentale de l'époque. Après avoir éprouvé une grande passion pour l'actrice anglaise Harriet Smithson, qu'il a épousée, les années de mariage les ont éloignés l'un de l'autre. Ils se sépareront en 1844. Pour le moment, Berlioz vit encore avec elle et leur fils Louis, mais la situation est lourde et douloureuse. En 1840, c'est probablement l'époque où Berlioz commence avec la chanteuse Marie Recio une liaison amoureuse qui se transformera en second mariage à la mort d'Harriet Smithson. Les biographes du compositeur sont souvent très méchants avec Marie. Ils n'imaginent pas qu'elle ait pu lui inspirer des mélodies d'amour. Néanmoins, il l'a aimée, il l'a dit dans sa correspondance, et on peut tout à fait imaginer qu'après les sombres mélodies qui peuvent rappeler la fin de la passion pour Harriet, il se soit tourné vers un avenir plus riant, quoique incertain. « Dites, la jeune belle, où voulez-vous aller ? Menez-moi, dit la belle, à la rive fidèle où l'on aime toujours. Cette rive, ma chère, on ne la connaît guère au pays des amours. Où voulez-vous aller ? La brise va souffler. » Inconnue, la dernière des nuits d'été d'Hector Berlioz, ici dans la version orchestrée en 1856 avec Véronique Jans soprano, l'orchestre de l'Opéra National de Lyon dirigé par Louis Langret. Mais auparavant, nous écoutions la version piano des nuits d'été, chantée par Marie-Nicole Lemieux avec au piano Daniel Blumenthal. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Stéphane Desmond pour le mixage, Françoise Monteil pour les recherches et le site et Claire Lagarde pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.